Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute, voici les titres. La Tchéquie et l'Autriche seront reliées par 3 gazoducs. Rencontre entre Jan Fischer et Václav Klaus à Spindler auf Mlin. Et puis triste bilan, 826 victimes d'accidents de la route en 2009. La République tchèque et l'Autriche seront reliées très probablement par 3 gazoducs. Selon le serveur euro.cz, les gazoducs devraient être construits par les sociétés Česká Plynárenská et RWE Transgas, et d'après les dernières informations, aussi par la compagnie E.ON Ruhrgas. Le président de l'Office des régulations énergétiques, Josef Fürst, indique que la compagnie E.ON Ruhrgas envisage de relier par le gazoduc la ville de České Budějovice en Bohême et le poste frontière de Dolní Dvořiště. Et Josef Fiesch de souligner que toutes ces initiatives sont utiles parce qu'elles renforcent la stabilité et la sécurité énergétique du pays. Mardi soir, le Premier ministre tchèque Jan Fischer et le Président de la République Václav Klaus, qui passent leurs vacances d'hiver dans les Monts des Géants, dans le nord de la Bohême, se sont donné rendez-vous à Spindler auf Mlin, la station de sport d'hiver privilégiée par les hommes politiques tchèques. Pas de thème politique officiellement évoqué lors de cette entrevue décrite comme amicale, c'est ce que les deux représentants ont tenu à communiquer au public et aux médias. Selon le serveur Tiden.cz, David Duke, ancien chef du Ku Klux Klan, se rendra fin janvier en République tchèque. Ce sera sa deuxième visite dans le pays. Pendant son premier séjour à Prague en avril dernier, David Duke n'a pas reçu l'autorisation de donner une conférence à l'université Charles, comme les organisateurs de sa visite l'avaient prévu. En plus, il a été arrêté et reconduit à la frontière autrichienne à l'époque. Sa prochaine visite serait organisée, selon le serveur, par Philippe Vavra, dont les activités sont liées à l'organisation néo-nazie appelée Défense Nationale. 826 victimes d'accidents de la route, tel est le bilan de l'année 2009 en République tchèque, un bilan qui est quand même le meilleur depuis les 20 dernières années. En dépit de ce constat positif, le nombre de personnes qui trouvent la mort sur les routes demeure toujours très élevé par rapport à la situation qui existe dans les autres pays de l'Union européenne. Des contrôles du taux d'alcoolémie plus sévère qui entrent en vigueur à partir du 1er janvier se présentent comme une des mesures appelées à améliorer cet état des choses. On passe à la culture avec, à partir du 1er janvier 2010, le bâtiment de la nouvelle scène Nova Scena, qui accueillait pendant les 20 dernières années la lanterne magique, la Terna Magica, et qui fera de nouveau partie du théâtre national, juste à côté duquel il est situé. Cette scène de théâtre sera désormais ouverte à la comédie, à la danse, au nouveau cirque et aux formes alternatives d'art plastique et de musique. En attendant, Godot de Samuel Beckett sera la première pièce qui sera créée. Ce sont aussi les espaces avoisinants à la nouvelle scène qui seront aménagés de façon à pouvoir accueillir différents événements. On termine avec la météo. Ce mercredi, fête de tous les Davids, selon le calendrier tchèque, le ciel est presque couvert. Il faut s'attendre à des chutes de neige qui se transformeront en pluie en pleine. Les températures diurnes varient entre 0 et 5 degrés. Les routes sont praticables, mais avec beaucoup de prudence dans certaines régions à cause du verglas. Voilà, c'est tout pour les informations. Je vous laisse entre de très bonnes mains, puisque c'est Václav Richter qui va vous présenter les derniers faits et événements de l'année 2009.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Entretien d'Alena Gebertova avec Ilios Yanakakis, politologue et universitaire français, sur l'avenir de la République tchèque. Anne-Claire Belluire a interrogé Léonore Launay de l'agence de voyage Prague Avant-Garde sur la situation touristique à la veille de la Saint-Sylvestre. La troupe du Théâtre National de Prague disposera à partir du 1er janvier prochain d'une nouvelle salle à Prague. Quels sont les thèmes que nous avons préparés pour ce tour d'horizon de l'actualité tchèque? Merci de rester avec nous. Ilios Yanakakis, politologue et universitaire français, connaît intimement la République tchèque pour y avoir vécu pendant de longues années et pour y donner aujourd'hui des cours à l'université. Avant les fêtes de Noël, il avait bien voulu dresser un bref bilan de la situation du pays au cours de l'année écoulée. Aujourd'hui, nous l'avons de nouveau invité pour l'interroger sur les évolutions à attendre.
Écoutez, comme je suis un être relativement optimiste dans des évolutions, je pense qu'en 20 ans, depuis la chute du communisme, d'autant plus que ce pays a été traumatisé par ce qu'on appelle la normalisation. La normalisation qui a, je le rappelle, a cassé ce pays-là. De l'élan des années 60, de cette promesse du printemps de Prague, la normalisation de Boussac l'a complètement, dirais-je, désarçonné, l'a complètement vidé de son dynamisme. Donc, je pense qu'en 20 ans, depuis 80, reconstruire, construire une classe politique qui peut se dire on est les représentants de la société, qui rentre dans le jeu démocratique, qui n'est pas seulement une lutte de pouvoir, mais une lutte, enfin, plutôt des actions pour le bien de la société, c'est trop tôt. Malheureusement, il faut attendre encore quelques années qu'il y ait des nouvelles générations qui montent, qui entrent dans le politique pour que ce pays devienne un pays politiquement normal.
Vous êtes souvent en contact avec les jeunes tchèques. Quel regard portez-vous sur les, par exemple, sur les étudiants?
Dirais-je mon regard? J'ai un regard multiple. Et je pense que j'ai un regard faussé. Parce que constamment, en tant qu'enseignant universitaire, je ne sais pas pourquoi je fais un parallèle entre le monde des étudiants en France et le monde des étudiants en République tchèque. Alors, pour revenir à votre question, je voudrais dire exprimer quelques observations et quelques remarques. Je pense qu'il y a toujours une jeunesse prête à s'ouvrir au monde, à s'intéresser au monde, à bouger, à voyager, à apprendre. Deuxièmement, c'est une jeunesse qui a encore des qualités et des défauts. C'est-à-dire des qualités, c'est qu'elle est un peu trop, dirais-je, soumise à une certaine image de discipline, d'acceptation des situations. C'est une jeunesse qui n'est pas assez dynamique, ne se bat pas assez pour ses propres intérêts. C'est bien, c'est mal en même temps. C'est bien parce que vous n'avez pas le désordre que vous avez dans les universités françaises. C'est mal parce que je la sens, cette jeunesse, un peu molle, un peu très égoïste, un peu renfermée sur elle-même, pas assez ouverte au monde. Et là encore, je dis, c'est une jeunesse qui est à l'image de ce pays. Pourquoi chercher ailleurs des exemples quand vous avez un pays qui, lui-même, est relativement amorphe?
Les Tchèques ont-ils gardé leur sens de l'humour?
Écoutez, je pense que non. Je suis vraiment, de ce point de vue, totalement triste. Souvent, je fais de l'humour avec les Tchèques avant en rigoler, en riait. Ils savaient répondre avec humour à l'humour. Mais maintenant, ils sont devenus tellement sérieux, tellement, dirais-je, j'ai ressenti même une certaine tristesse chez les Tchèques, ce que je n'avais pas ressenti il y a quelques années. C'est comme s'ils sont fatigués de quelque chose. De quoi? Je ne sais pas. Ils sont fatigués, c'est-à-dire comme si toute la société elle-même est fatiguée. Je reviens toujours sur ce grand problème, c'est à l'image de la fatigue de la société tchèque. Une société, à mon sens, qui a perdu une certaine vitalité. Et une chose qui m'a frappé, c'est une société qui se complaît dans la médiocrité maintenant. Ce qu'elle ne se complaisait pas dans la médiocrité, surtout au niveau de ses élites.
La période des fêtes de fin d'année est une période phare pour le tourisme tchèque, même si le secteur touristique est également touché par la crise. La République tchèque devrait accueillir pendant le réveillon du nouvel an environ 180 000 touristes étrangers. 80% d'entre eux restent à Prague. Léonor Launay de l'agence de voyage Avant-Garde Prague commente au micro d'Anne-Claire Veluire la situation touristique à la veille de la Saint-Sylvestre.
La période de Noël et des fêtes du 1er de l'an sont une période très très prisée des touristes français, que ce soit les familles ou les jeunes qui apprécient l'atmosphère particulière de la ville de Prague au moment des fêtes de fin d'année. Cette atmosphère chaleureuse et festive qui se dégage et qui viennent justement profiter aussi des beautés de Prague l'hiver dans un contexte un peu mystérieux qui entoure la ville.
Qu'est-ce que les gens viennent rechercher ici ? Qu'est-ce que les touristes recherchent ?
Alors ça dépend du type de clientèle, mais on peut dire en général que les familles viennent pour apprécier la ville de Prague, découvrir les monuments dans ce moment privilégié qu'est Noël et les fêtes de fin d'année, venir y déguster les spécialités tchèques dans les grands restaurants, dans une ambiance chaleureuse typique, et venir aussi à des spectacles à l'opéra ou pour des événements un peu spéciaux. Et bien sûr, les jeunes viennent en nombre entre amis pour faire la fête, profiter des nombreux bars du centre-ville, des spécialités de bière, et ça c'est vraiment ce qui est très très recherché chez les jeunes, le sens de la fête à Prague.
Est-ce qu'ils y trouvent leur compte ? Est-ce qu'ils en sont contents ?
Je crois, oui, on a toujours des retours très sympathiques, des gens qui sont toujours très satisfaits et qui souhaitent revenir à d'autres moments de l'année pour découvrir de nouvelles choses. C'est pour de nombreux jeunes d'ailleurs des occasions de venir pour la première fois à Prague et de découvrir cette ville et d'y revenir dans un contexte plus culturel peut-être.
Le centre de Prague est en effet gonflé de touristes. En moyenne sur l'ensemble de l'année, ce sont les Allemands qui représentent la plus grosse part des touristes étrangers, mais on entend également beaucoup d'Italiens, de Britanniques, d'Espagnols ou de Français. Parmi eux, Caroline vient de Savoie pour fêter le réveillon à Prague.
On vient passer la Saint-Sylvestre, puis on a prévu de passer 4 jours.
Pourquoi vous avez choisi cette période-là spécialement ?
Ah, on a pris l'habitude de venir faire le réveillon dans des grandes villes d'Europe. On a été à Berlin, on a été à Barcelone, et on avait envie de continuer sur cette lancée. C'est une période de fête où il y a plein de monde, c'est sympa. En plus, là, il y a la neige. Mais on a envie de faire la fête dehors, en fait. On va pas aller dans une boîte ou quoi que ce soit, on va être dehors.
Marie-Pierre est aussi venue à Prague pour fêter le nouvel an avec ses amis, mais pas tout à fait par hasard.
Personnellement, je connais Prague depuis un bon moment, puisque on est tous des enseignants et on emmène tous les ans un groupe d'élèves pour passer 10 jours ici. Et j'avais pour la fin d'année plaisir à venir avec mes amis passer quelques jours ici.
Vous allez passer à Saint-Sylvestre ici ? Est-ce que vous avez prévu quelque chose ?
On n'y a pas pensé encore, donc ça va être la surprise.
La tendance dans l'organisation des séjours semble être à l'improvisation. C'est ce que confirme Léonore Launay de Avant-Garde Prague.
Une particularité de ces derniers mois, je dirais, c'est que les gens ont tendance à, peut-être à cause de la crise, des problèmes financiers, à se décider vraiment au dernier moment. Il y a moins de commandes à l'avance. Pour les groupes, pour les personnes plus âgées, oui. Mais on peut dire que, en général, il y a une forte tendance à réserver au dernier moment, à passer à l'agence, un peu une fois sur place, pour se renseigner sur les lieux où sortir, les restaurants où aller, les soirées dans lesquelles se rendre.
Est-ce que vous voyez sur la fréquentation entre l'année dernière à cette période et cette année une différence ? Certains restaurateurs ou hôteliers se plaignent d'une baisse ou d'une légère baisse. Est-ce que vous avez constaté la même chose ?
Finalement, je crois que c'est une très bonne saison. On n'a pas constaté de grosses baisses par rapport aux années précédentes. Les gens viennent peut-être pour moins longtemps, peut-être en se décidant un peu moins à l'avance, mais la fréquentation est très satisfaisante pour les fêtes de fin d'année.
Selon l'Association des agences de voyage tchèques, on constate néanmoins une baisse du nombre de touristes étrangers de 10% par rapport aux années précédentes. Elle remarque par ailleurs que les Tchèques ont également baissé leur budget voyage pendant cette année 2009.
Les touristes qui se promènent sur l'avenue Narodny dans le centre de Prague se demandent souvent pourquoi l'édifice du Théâtre National est flanqué d'un bâtiment moderne. L'architecture néo-renaissance du théâtre souffre un peu du voisinage de ce bâtiment dont la façade couverte de verre manque d'élégance. Le bâtiment qui a abrité pendant de longues années la scène du théâtre expérimental Laterna Magica, lanterne magique, fera de nouveau partie à partir du 1er janvier du Théâtre National. Nova Scena, la nouvelle scène, tel a été le nom officiel de cet établissement, construit en 1984 par l'architecte Karel Prager, tout près du Théâtre National. Déjà à l'époque, ce projet réalisé trop rapidement a suscité de nombreuses critiques. L'architecte Zdeněk Lukeš constate.
C'est justement ce qu'on appelle un bâtiment controversé, comme d'ailleurs une autre œuvre du même architecte, Karel Prager, c'est-à-dire l'ancien siège du Parlement fédéral tchécoslovaque. L'édifice a toute une série de défauts fonctionnels et même le niveau de l'ornementation intérieure marqué par le réalisme socialiste est assez bas.
À l'origine, la nouvelle scène faisait partie du Théâtre National, institution qui réunissait l'édifice historique du Théâtre National et le Théâtre des États. Après la chute du communisme en 1989, le Théâtre National a cédé la salle à la Lanterne Magique, troupe expérimentale qui mariait dans sa production le théâtre, la pantomime, le ballet et le cinéma. Cette situation changera le 1er janvier et ce seront de nouveau les comédiens du Théâtre National qui investiront ces lieux. C'est ce que confirme le directeur de la troupe du théâtre dramatique de cette institution, Michal Dočekal.
Chaque grand théâtre dans le monde de dimensions comme celle du Théâtre National dispose d'une scène spéciale pour le répertoire moderne, une scène qui correspond souvent à ce répertoire aussi par son architecture. L'idée de la nouvelle scène avait donc été juste, mais sa réalisation, au début des années 80, avait été très problématique. En tout cas, nous avons besoin d'une scène pour le répertoire moderne et contemporain, et c'est ce répertoire que nous y présenterons.
La première représentation de la troupe du Théâtre National sur la nouvelle scène est prévue pour le 16 janvier prochain. Ce sera la première de la célèbre pièce de Samuel Beckett, en attendant Godot, qui est selon Michal Dočekal, metteur en scène de cette production, une des pièces les plus importantes du XXe siècle. En février sera transférée sur la nouvelle scène Rock'n'Roll de Tom Stoppard, une production réussie qui figure déjà au répertoire du Théâtre National, et en mars, la troupe y présentera la première de la pièce d'Edward Bond, Sauvé. La troisième première à laquelle le public pragois pourra assister dans cette salle sera la pièce corrosive d'Elfrida Jelinek, prix Nobel de littérature, intitulée « Ce qui arriva quand Nora quitta son mari ». Dans cette pièce, l'écrivaine autrichienne réécrit et réinterprète à sa façon la célèbre pièce de Henrik Ibsen, « Une maison de poupées ». Fin de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque préparé pour vous par la section française de Radio Prague et nous appelons à l'écoute tous les amateurs d'histoire.
Chapitre de l'histoire tchèque. David, allons.
Temps et espace dans un régime autoritaire, le cas de la Tchécoslovaquie, tel est le titre de la thèse sur laquelle travaille l'historien Roman Krakowski sous la direction d'Antoine Marès et de Pascal Horry à la Sorbonne. La soutenance est prévue pour le printemps, et ce travail novateur nous permettra sans doute de mieux comprendre les logiques sociales, culturelles et symboliques propres à la période communiste. Édifiée en 1955 pour être détruite 7 ans plus tard, la célèbre statue de Staline sur la colline de Latna dominait littéralement le centre-ville de Prague. À la manière du Christ Pantocrator des églises russes, le dirigeant soviétique englobait d'un seul coup d'œil la capitale tchécoslovaque. Dans ce symbole facile, il faut pourtant lire un dogme érigé en projet politique, celui du contrôle absolu du parti sur la société et à commencer par l'espace public. Lorsque dans les années 1960 à Prague, Milan Knijak organise des happenings en pleine rue, le côté subversif ne provient pas du contenu des actions, généralement indéchiffrables. Ce qui choque le pouvoir, c'est cette réappropriation de l'espace public, monopole jusqu'alors jalousement gardé. D'autres ruptures, en apparence anodines, sont lourdes de sens durant la décennie 1960. Reconquête spontanée d'une forme d'association avec les troupes de théâtre, par exemple, succès du rock et des modes occidentales auprès de la jeunesse. Sur les résistances de la société au régime, tout ceci en dit autant, sinon plus, que les débats au sommet entre réformistes et conservateurs. Régime totalitaire, la Tchécoslovaquie communiste entend changer la société. C'est donc dans le rapport entre le pouvoir et la société que résident les grands défrichements à effectuer pour les historiens de l'Europe centrale. Une histoire totale qui fait appel aux politiques symboliques et aux aspects culturels et sociaux. À travers un angle original, Roman Krakowski finit actuellement une thèse qui devrait renouveler les cadres d'analyse du régime totalitaire. Depuis Paris, où il réside, Roman Krakowski a répondu à nos questions.
Ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est la manière dont les régimes autoritaires essayent d'avoir le contrôle sur la société et comment, à travers le contrôle de certains de ces paramètres, ils essayent de transmettre un message, d'éduquer les populations, de former une nouvelle société. Et donc j'ai pris l'exemple des régimes communistes avec la Tchécoslovaquie pour travailler sur le contrôle que les régimes communistes exercent sur le paramètre espace et temps. Parce que ce sont deux paramètres qui nous permettent à chacun de s'orienter dans nos activités quotidiennes en travaillant sur le contrôle de l'espace et du temps par le régime communiste. Je peux essayer de réfléchir sur la manière dont ce régime essaye de façonner, de transformer la société.
Oui, et éventuellement, bien sûr, sur les résultats, même si j'imagine que ça, c'est un peu moins tangible à analyser.
C'est difficile, mais je pense que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir quel était le projet initial, mais surtout quelle était son application, comment les populations ont réagi par rapport à ça. Parce que l'histoire, c'est d'abord l'histoire des hommes et des femmes, et donc j'essaye de voir comment la société a réagi à cette pression.
Quels sont les grands cadres temporels donc qui rythment le quotidien dans la Tchécoslovaquie communiste?
Mm-hmm. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Dans le domaine du temps, il y a le temps cyclique. Donc chaque société est organisée selon les cycles. Et donc un des cycles, par exemple, peut être le cycle hebdomadaire qui a été installé au Moyen-Âge, mm-hmm. un cycle religieux complètement arbitraire, mais qui s'est imposé. Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 30, en Russie soviétique, oui. on a supprimé la semaine de 7 jours. On a introduit ce qu'on appelait Nitrerivka, c'est-à-dire une semaine de 5 jours. Avec une journée de repos. Et ce système a fonctionné jusqu'au début des années 40. Donc pendant une dizaine d'années, il n'existait pas une semaine de 7 jours en Russie. Ce qu'il en est resté après la guerre, c'est une volonté quand même de transformer le rythme hebdomadaire. Et donc, dans les démocraties populaires de l'après-guerre, on a essayé d'agir à la fois sur le rythme lui-même, donc sur le cadre temporel, en déplaçant par exemple le week-end, on avait les jours de repos déplacés sur les jours de la semaine, on allait au travail le dimanche sur le contenu de ce rythme en travaillant sur les activités qui sont consacrées au repos dominical et qui donnaient un cadre, par exemple la messe qui était souvent déplacée sur les heures très très matinales, donc généralement avant 7h du matin le D'accord. dimanche mm-hmm. ou qu'elle soit déplacée sur la fin de l'après-midi vers 5-6h du soir et que la journée soit libérée pour d'autres activités comme les travaux des champs, les moissons ou les activités pour les jeunes, par exemple.
D'accord. Donc c'était à la fois pratique, mais est-ce que c'était aussi, par exemple, symbolique, c'est-à-dire de faire un peu contrepoids à la tradition catholique?
Il y a évidemment une volonté de lutter contre la religion, certes, mais aussi, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de lutter contre une certaine manière de vivre le dimanche, qui n'était pas forcément liée à la religion, parce qu'il y a des il y avait des activités qui étaient d'abord et pour une grande part un lieu de sociabilité.
Oui.
Et donc le régime essaye de remplacer ce lieu de sociabilité, parce que dans les villages, c'est généralement le seul endroit ou le seul moment de la semaine où toute la communauté se réunit, avant ou après la messe, où on va prendre un verre après, où on discute devant l'église. Donc remplacer ce lieu de sociabilité par d'autres lieux de sociabilité, des brigades de travail qui étaient organisées pendant le week-end. Donc c'est pas seulement une lutte contre la religion, mais une lutte contre des pratiques de sociabilité qui sont là depuis très très longtemps.
Quel rythme de travail entraînait les objectifs qui étaient fixés par le plan?
Ce qui est intéressant quand on regarde la planification socialiste, c'est que Il y a au fond une idée de contrôle du temps. Si on regarde bien, si vous regardez bien les plans quinquennaux, ce sont d'abord les lois qui sont adoptées par l'Assemblée nationale où on décrète prévisions de la production. Et en même temps, on décrète également les dépassements de ces objectifs. On fixe dans la même loi certains objectifs. Par exemple, avant la fin de l'année 1949, il va falloir produire, je ne sais pas, j'en vends, 500 tracteurs. Mm-hmm. Et dans l'article suivant, on précise qu'il va falloir produire 600 tracteurs. On prévoit l'objectif et en même temps son dépassement. Dans cette manière de faire, il y a une idée de maîtrise, de dépassement de soi et de maîtrise du temps. Le temps est prévisible et le temps, si on le prévoit, peut être accéléré. Et pour moi, la planification, c'est essentiellement ça. C'est une volonté d'accélération du temps.
Comme le mentionne Roman Krakowski, les démocraties populaires ont pu, par certains aspects, devancer les pays occidentaux dans certaines réalisations sociales, comme par exemple les crèches et les maternelles, instaurées dès les années 1950. Mais les contradictions quotidiennes entre les idéaux du régime et sa pratique politique n'ont pu empêcher une désaffection de la société à son égard. Dès lors, le projet totalitaire du régime à travers le contrôle des paramètres espace et temps a échoué, mais n'en a-t-il pas moins laissé des traces dans la Tchécoslovaquie de l'après-communisme ? La thèse de Roman Krakowski donnera sans doute des pistes à cette question, comme à beaucoup d'autres.
L'émission en langue française de Radio Prague est maintenant terminée. Merci de votre fidélité et nous osons espérer que vous resterez fidèles à nos émissions aussi au cours de l'année 2010. À bientôt.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 y 15.255 kilohercios. A las 10:30 UTC transmitimos para el Caribe y Sudamérica por los 9.955 kilohercios a través de la repetidora en Miami. A las 15 horas UTC transmitimos para España por los 11.600 y 13.580 kilohercios. A las 19 UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 6.200 y los 9.430 kilohercios. Radio Praga transmite a las 20 horas UTC para España por los 5.930 y los 9.430 kilohercios, y a las 21:30 UTC para España y Sudamérica por los 5.930 y los 9.435 kilohercios. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 5.930, los 7.345 y los 7.420 kilohercios. Esta última frecuencia a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A la 1:30 horas UTC, los radioescuchas de Centroamérica nos pueden sintonizar por los 6.200 y 7.300.